Le débat des grandes voix d'Europe 1. Sonia Mabrouk.
Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous accompagner le dimanche sur Europe 1, votre débat hebdomadaire pour analyser l'actualité et prendre un temps d'avance aussi sur la semaine qui s'annonce. Pour en parler, je suis entourée des grandes voix, Catherine Ney, Charles Villeneuve, nous accompagne aussi Véronique Reil-Soult, c'est la voix des réseaux sociaux, également directrice générale de Dentsu Consulting, et on accueille comme tous les dimanches des grandes voix invitées avec nous, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et l'historien Jean Garrigue. Bonsoir à vous tous.
Bonsoir.
Vos réactions avec le hashtag Grande Voix, et voici le programme. Entre la Catalogne et Madrid, c'est une guerre d'usure. Les fractures sont profondes et maintenant, les indépendantistes vont-ils franchir le Rubicon? C'est l'enjeu des prochaines heures. En France, après la réforme de l'ISF, la fin progressive de la taxe d'habitation pour 80% des ménages a été adoptée en première lecture. Le gouvernement poursuit ses réformes fiscales. Alors, quelle trace va laisser ce débat? Au Front National, est-ce la fin d'un cycle? Les questions se multiplient autour d'un FN version Marine Le Pen. Son retour à la télévision a été un flop, mais au-delà, comment analyser un tel malaise? Enfin, beaucoup de tensions et d'émotions au procès Mera cette semaine. Retour sur les temps forts des auditions et puis cette question, quelles leçons retenir de ces semaines de procès? Voilà pour le programme et avant d'aborder tous ces thèmes, nous allons parler des suites de la résonance du scandale Weinstein qui continue de provoquer beaucoup de remous en France.
Europe 1, les faits d'actu.
Et il y a eu ces derniers jours, ces dernières heures, d'autres prises de parole qui ont fait beaucoup de bruit. Des accusations à l'encontre, l'une de Pierre Joxe pour une agression sexuelle et l'autre de Tariq Ramadan pour viol. Alors ce sera à la justice de statuer sur ces plaintes. En ce qui nous concerne, on analyse les suites d'une véritable bombe à fragmentation qu'a été ce scandale. Et cette libération de la parole, les grandes voix après plusieurs jours, qu'est-ce que vous retenez en priorité chacun de vous? Charles Villeneuve.
C'est le nombre de femmes victimes de ces pratiques qui est incroyablement important. C'est le déferlement, c'est le nombre de témoignages. C'est ça qui m'a le plus, en tout cas, impressionné. C'est aussi le courage d'en parler, de mesurer la difficulté de le faire. Parce que c'est pas facile que des milliers de femmes, tout d'un coup, s'exposent de cette manière et racontent ce dont elles ont été les victimes. C'est aussi la révélation, et ce qui me trouble sans doute le plus, c'est la révélation qu'au XXIe siècle, les relations entre hommes et femmes ne sont pas aussi naturelles, aussi apaisées qu'on pouvait le croire. Et c'est vraiment ce qui me marque, personnellement, au point qu'elles vont descendre dans la rue, puisqu'il y a un appel justement à manifester à Paris, à Lyon, à Marseille et même à Montpellier le week-end prochain.
Mais est-ce que vous dites, par exemple, Catherine Ney, qu'il est temps maintenant de passer à l'étape suivante? Et l'étape suivante, la seule juge d'ailleurs, si on peut dire, c'est la justice.
Je ne sais pas s'il faut légiférer contre le harcèlement, surtout que s'il est difficile à prouver.
Que les plaintes aillent jusqu'au bout.
Bon, ce que je trouve intéressant, c'est une prise de conscience qui, d'ailleurs, les hommes aujourd'hui qui viennent dans les micros, des politiques qu'on a connus, d'ailleurs peut-être eux-mêmes harceleurs jadis et peut-être moi aujourd'hui, je ne veux nommer personne, mais qui arrivent et qui battent leur coup.
Vous aussi, vous auriez pu témoigner.
Non, pas moi. Mais je veux dire, on a beaucoup d'histoires, on a entendu beaucoup d'histoires. J'ai entendu beaucoup d'histoires depuis que je suis journaliste et qui maintenant j'entends les mêmes qui tiennent des propos vertueux. Bon, c'est très intéressant, c'est même essentiel parce que c'est une forme de révolution qui se produit dans les esprits. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui la ministre de la santé dit qu'elle-même, eh bien, elle avait des chefs de service qui lui disaient, mais viens t'asseoir sur mes genoux, qui insistaient, qui faisaient du harcèlement, et elle disait, on en riait. Mais c'est vrai que quand on est une étudiante qui est médecin, eh bien qu'on a les moyens de répondre et que ce chef de service est peut-être un supérieur, mais la carrière ne dépend pas de lui, on est fort pour se moquer de lui et pour l'envoyer balader. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est est-ce que toutes ces femmes qui aujourd'hui portent plainte, qui sont des actrices ou qui témoignent, eh bien, ça va aider celles qui sont dans des entreprises, qui sont à la merci d'un patron, d'un petit chef qui les emmerde au quotidien, est-ce que celles-là, ça va leur donner plus de courage? Est-ce qu'elles pourront réagir? Et est-ce que ça leur donnera le courage de dire, écoutez, à arrêter au risque de perdre son emploi, d'être mal vu même des autres salariés d'une entreprise? C'est ça, je veux dire. Alors, le mouvement est lancé et c'est vrai qu'on trouve que c'est insupportable et que les hommes, c'est un manque de civilisation. Alors on dit dans la jeunesse, c'est un excès de testostérone. Voilà, les hommes ont toujours été comme ça. Et dans tous les milieux.
Je pense, Catherine, qu'il y a un temps pour tout et que le temps de la justice aussi doit arriver.
Ben, oui.
Est-ce que c'est votre avis à tous, Jean Garrigue, Frédéric Dabi?
Moi, j'ai deux remarques. La première, c'est de constater que ce déferlement dont parlait tout à l'heure Charles, on n'a pas assisté au même déferlement au moment de l'affaire DSK, qui était un cas, a priori, de harcèlement assez avéré. Finalement, tout le microcosme savait que DSK, et d'autres d'ailleurs, mais enfin, était quand même de ce côté-là assez bien pourvu, je dirais. Et est-ce que ça veut dire que...
Attention au choix des mots quand même. Il ne faut pas rigoler de ces sujets-là.
On prête qu'aux riches. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que bizarrement, à ce moment-là, il y a eu un petit peu, on a commencé à parler un peu d'harcèlement, notamment dans le champ politique, mais la parole ne s'est pas libérée comme elle s'est libérée aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le monde, je dirais, du cinéma, etc., qui suscite ce type d'émotion, ou est-ce qu'on a voulu, au contraire, préserver un certain silence parce qu'on était dans le champ politique ? Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, qui est plus de fond, c'est que tout ça, évidemment, pose le problème de ceux qui détiennent le pouvoir dans nos sociétés. Et on
le
voit très bien.
Au sens large.
Au sens large, pouvoir politique, économique, social, médiatique, culturel. Et là, on voit très bien à quel point c'est une affaire comme celle de Weinstein pose ce questionnement et tout le travail qui reste à faire pour que les femmes, elles aussi, accèdent.
Bien sûr. Frédéric Dabi, dans les enquêtes, dans les sondages, déjà, vous questionnez sur ce qui s'est passé là, ce qu'on a vécu ces derniers jours ?
On voit que ça a beaucoup marqué les Françaises et les Français. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les sondages traditionnels, dès qu'on touche le sujet femme, dès qu'on s'intéresse à des campagnes de communication sur la contraception, il y a toujours un vrai gap de genre. Les femmes sont beaucoup plus sensibilisées que les hommes. Là, on a des choses relativement homogènes. Pour un peu apporter un point de complément sur ce que Jean Garrigue vient de dire, il y a eu aussi un autre moment extrêmement important. En 2015, il y a eu un appel bas les pattes de 40 femmes journalistes, souvent dans le domaine politique, qui ont raconté des expériences de harcèlement. Ça n'a pas pour autant libéré la parole. Et par rapport à ce que disait Catherine, est-ce que les témoignages peuvent aider à essayer de faire bouger les choses? Oui, mais
mettait en cause un ministre qui avait tiré le string du consoeur lors d'une conférence de presse.
Nom,
oui, c'est
M.
Sapin.
Lors du dernier quinquennat. Mais le problème, c'est la question de la suite, du cheminement, puisqu'il y a parfois des dépôts de plainte, 10 fois moins que de faits avérés, et dans 94% des cas, il y a des plaintes classées sans suite, puisqu'il y a une difficulté à caractériser l'infraction. C'est là qu'est le nœud du problème.
95%.
94, je crois.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite judiciaire, c'est parole contre parole. Et il y a aussi un autre obstacle qui est ignoré en général, c'est que en juillet 2012, le Conseil constitutionnel a abrogé la loi sur le harcèlement sexuel, etc., sur les problèmes justement d'agression sexuelle. Et a autorisé à voter une nouvelle loi en août 2012. Donc tout ce qui précède août 2012 ne peut pas avoir de suite.
Quand vous dites parole contre parole, Véronique Reilsaut, on a vu sur les cas dont je viens de parler tout à l'heure, quand j'ai évoqué Tariq Ramadan ou Pierre Joaque, sur les réseaux sociaux, c'est aussi parole contre parole, c'est aussi plainte contre plainte. Et c'est pour ça que certains, une fois qu'on a dit que c'était important cette libération de la parole, certains sont très mal à l'aise avec ces revendications et ces plaintes collectives et sous une forme de dénonciation sur les réseaux sociaux.
Alors les réseaux sociaux ne doivent pas devenir un tribunal populaire, on l'a déjà dit. Ce qui a changé par rapport aux autres affaires, c'est que cette fois-ci d'abord, c'est une parole libérée dans le monde entier. C'est pas qu'une histoire française ou d'une personne ou une histoire américaine, c'est dans le monde entier. Ce sujet a permis aux uns et aux autres de s'exprimer. Quand on a 415 000 messages uniquement sur la France avec ce hashtag balance ton porc, on voit bien que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Les hommes, les femmes, enfin tout le monde a été concerné. Et effectivement, le sujet du nom, c'est compliqué. Il n'y a qu'une quinzaine de noms, heureusement, qui ont été sortis sur l'ensemble de ces messages. Pourquoi heureusement ? Parce que finalement, quand un nom est sorti, il y a plus de preuves du côté de la femme qui a mis un nom pour être attaquée en diffamation que pour la femme d'attaquer l'homme en question. Parce que souvent, il n'y a pas de preuves, ou sinon, il y a prescription. Bref, globalement, on a un risque assez important pour les unes et les autres. Donc le fait d'avoir des autres témoignages, ça vous rend plus courageux, mais le fait de dénoncer et de donner un nom, c'est plus compliqué.
Et on retiendra et ce que vous dites, oui.
Et juste vous dire qu'il y a certainement une solution à proposer aux différents ministres, que ce soit la justice, que ce soit l'intérieur ou que ce soit Madame Schiappa, voire même Monsieur Mounir Majoubi, c'est de créer une plateforme qui réunirait ces 415 000 messages pour qu'ils soient un peu sanctuarisés.
Ben voilà, et puis une initiative concrète.
Et d'ouvrir vers...
Il faudra qu'ils s'en saisissent.
Des avocats,
on va poursuivre les grandes voies de notre débat d'actualité avec tout d'abord, on va parler de la guerre d'usure entre Madrid et Barcelone. C'est à la une, le bras de fer se poursuit, se durcit. Analyse à suivre.
Le débat des grandes voies d'Europe 1. Sonia Mabrouk.
Et c'est votre débat sur l'actualité. Entre la Catalogne et Madrid, rien ne va plus. C'est un interminable bras de fer qui s'est durci ces dernières heures. Le gouvernement espagnol veut prendre des mesures draconiennes pour empêcher la Catalogne de faire sécession. Et de son côté, eh bien, la région dénonce de facto un coup d'État. Est-ce que, Jean Garrigue, vous qui faites attention à l'importance des mots, j'ai parlé avant la pause d'une guerre d'usure, c'est le cas ? C'est vraiment ce qui caractérise cette situation ?
Oui, tout à fait, parce que vous avez bien choisi cette expression, comme toujours.
Et je vous remercie.
Parce que, ce qu'avaient tenté de faire les indépendantistes catalans, ou plutôt cette majorité assez hétéroclite d'où est issu Puigdemont, c'est précisément une sorte de guerre éclair, de blitzkrieg, pour profiter d'une fenêtre qui était offerte, de ce fameux référendum, qui était d'ailleurs illégal, et dont il faut rappeler qu'il est quand même minoritaire par rapport à la population de la Catalogne. En tout cas, que seuls 43% avaient participé à ce référendum. Donc, ce
illégal.
Qui se passe aujourd'hui... Illégal, c'est ce que je viens de dire. Mais le problème, c'est que à partir de là, les camps se figent. C'est un jeu de dupes en réalité parce que Mariano Rajoy n'applique pas véritablement le fameux article 155. Il ne suspend pas l'autonomie de la Catalogne. Mm-hmm. De l'autre côté, on n'a pas véritablement prononcé l'indépendance. Et donc, ça va être une guerre, effectivement une guerre d'usure. Et on sait ce que ça donne, les guerres d'usure. Ça peut durer très longtemps, ça fait des victimes dans tous les camps. Et je pense que, au fond, ce qui ressort de tout ça, c'est une réémergence du nationalisme, des nationalismes. Et ça me paraît très négatif.
Oui, mais attention, Charles Villeneuve, si Madrid prend la main vraiment sur le pouvoir des autorités catalanes, puisque c'est vraiment le risque et la menace, il peut se passer beaucoup de choses.
Non, mais tout est en place pour que ça tourne vinaigre, mais pour l'instant, il ne peut pas appliquer l'article 155. Il faut que le Sénat le vote. Et c'est le samedi 28 octobre, le 27 octobre, qui peut effectivement mettre en route en quelque sorte l'article 155. Mais le vrai enjeu pour moi, c'est lorsque le gouvernement espagnol nommera le général de la Guardia Civile et que ce général arrivera pour prendre en main toutes les forces de sécurité de Barcelone.
Ce sera un verrouillage de la région alors.
Oui, non, mais maintenant, en plus, il faut aussi déterminer le périmètre des interventions de Madrid pour l'application de l'article 155. C'est un peu plus compliqué qu'on le dit, qu'on le présente, cette affaire. D'accord.
Parce que ça n'a jamais été appliqué.
Voilà. C'est une guerre d'usure, mais c'est surtout une guerre. D'abord, on ne connaît pas le plan de route, le plan de bataille de Puigdemont, le président du Parlement catalan. C'est assez, finalement, confus.
Flou.
On ne sait pas
mais
très bien.
Mais comment vous l'expliquez, justement, Charles Villeneuve? Il y a quand même deux stratégies qui se font face. Vous
non,
avez le gouvernement espagnol.
Parce qu'il réserve ses surprises.
Et le dirigeant
catalan? Parce qu'il a pris conscience qu'il y a aussi des masses de Catalans qui ne veulent pas l'indépendance, qui veulent rester dans l'Espagne, dans l'unité espagnole. Ils ont mis 1000 ans pour faire cette unité espagnole, ça ne peut pas se défaire, même en quelques mois.
Catherine, née pendant ce temps, l'Europe, elle essaye de se faire entendre difficilement. Paris pointe le risque d'une dislocation, mais qu'est-ce que vous en pensez? Depuis le début de cette crise, l'Europe, elle dit non, mais ça ne nous concerne pas, c'est une affaire interne. Est-ce que ce n'est pas un peu faire l'autruche quand même?
Bah écoutez, ils veulent d'abord que les Espagnols et les Catalans règlent leurs problèmes entre eux. Ils ne vont pas se mêler. Après tout, la Catalogne fait partie de l'Espagne. Ce sont des Espagnols entre eux, même si aujourd'hui, on voit bien que la crise qu'il y a entre les Catalans et la France s'apparente à du racisme. Moi, j'entendais ce matin le témoignage d'une femme qui disait « Je ne peux plus les supporter, ce sont des gens incultes, ce sont des barbares. » Et donc, il y a une forme d'un sentiment de supériorité intellectuelle. C'est une question identitaire, voilà. Et je crois qu'on a laissé faire... en 1994, je crois que la loi de normalisation linguistique qui imposé le domination du catalan sur le castillan, qui obligeait c'était le début. Et là, aucun juge n'a dit mais vous êtes dans l'illégalité, c'était absolument pas constitutionnel. Après quoi, eh bien les magasins qui me mettaient de la publicité en castillan devaient payer une amende, voyez. Bon, et par exemple les films américains ne pouvaient venir en Catalogne que s'il y avait des sous-titres en catalan. Donc ils se sont sentis,
ça remonte à loin. Et donc les revendications identitaires, c'est important. On s'arrête sur ce point. Vous êtes d'accord?
Oui, parce qu'en plus, il y a un risque de contagion avec ce qui se passe en Lombardie et en Vénitie. Alors, le complexe de supériorité, je sais que Charles Villeneuve aime beaucoup le football. Lorsque des clubs de calcio du sud de l'Italie venaient jouer à Milan, il y avait des banderoles qui disaient « Bienvenue en Italie ». Il y avait aussi ce sentiment, là, les leaders anti nationalistes mettent en avant Rome la voleuse. Donc il y a une dimension économique, il y a une dimension identitaire, il y a aussi ce qui peut se passer en Écosse dans le cadre du processus du Brexit. Et c'est assez paradoxal
chez
de voir
Flamands,
que
chez les Flamands, Frédéric.
Bien sûr, d'ailleurs, la Belgique a été plutôt différente du reste de l'Europe sur l'idée qu'il fallait. Elle a été plutôt plus bienveillante vis-à-vis des Catalans que le reste des pays européens. Et il y a une sorte de paradoxe qui pointe le jour. D'un côté, on a une Europe qui peut-être pourrait se disloquer, peut-être. Et de l'autre, on a un regard de l'opinion publique française nettement plus favorable à l'Europe, bien sûr critique, hein, la France du non est majoritaire aujourd'hui, mais qui a le sentiment, pour paraphraser la phrase de François Hollande, que c'est de moins en moins la France qui est la solution que l'Europe, compte tenu des problèmes migratoires, de terrorisme ou d'emploi.
Oui, mais attends, mais cela étant, l'Europe a ses responsabilités dans la décomposition actuelle. Mais sauf qu'il y a quand même deux chefs d'État qui ont pris position très nettement pour l'unité espagnole. C'est Merkel
et Macron. Macron.
Macron a été très net. Je ne vais pas citer toute la phrase, mais il est très net là-dessus. Sauf que c'est vrai qu'il y a des petites bombes à retardement, comme la Catalogne. Mais d'ailleurs, si on veut revenir à l'Europe des régions, ça a existé. C'était le Moyen-Âge en Europe. Donc, on peut le faire.
D'ailleurs, que dans cette majorité très étroite de M. Puigdemont au Parlement catalan, il est, otage de partis extrémistes qui sont anti-européens. Alors que lui serait plutôt européen, que une partie de sa majorité est pro-européenne, comme d'ailleurs les Écossais, comme d'ailleurs les Flamands. Mais eux, là, vous avez des gens qui sont contre l'Europe. Donc on aurait quelque chose d'absurde, parce que la justification de l'indépendance catalane, ce serait que la Catalogne ensuite intègre l'Europe. Or là, ça paraît très, très, très difficile, étant donné cette majorité. Bref, on voit à quel point il est dans une situation extrêmement fragile.
Est-ce que sur les réseaux sociaux également, Véronique Reilsoul, ce sujet fait beaucoup parler?
C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on en parle dans toute l'Europe, mais là où c'était flagrant, et vous avez raison, c'est que en fait, quand on étudie les volumes, qui sont assez importants parce qu'on a plus de 2 millions de messages dans toute l'Europe, quand on étudie les volumes, si on regarde juste Catalogne, on en parle, mais en fait, plus ça va, plus dans les autres pays, on parle non plus tant de la Catalogne que de l'indépendance et des référendums. Et en fait, c'est en train de déraper, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, chacun parle de sa situation.
Catalogne,
exactement. Donc, ceux qui en parlent le plus, ce sont les Anglais avec le sujet de l'Écosse. Et on en parle vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Et les discussions sont de plus en plus tendues. On en parle évidemment en Italie, même si c'est pas un référendum sur l'indépendance. Ils en parlent beaucoup.
Mais je précise, ce sont deux régions d'Italie qui votent en ce moment pour plus d'autonomie. Il s'agit de la Lombardie et de la Vénitie.
Voilà. C'est économique. Mais ils en parlent.
Et d'ailleurs, ils ont
sûr.
L'accord du gouvernement italien.
Voilà. Et puis
c'est
après,
légal,
c'est légal, mais il y a évidemment un parallèle.
Gens,
Et puis après, il y a un sujet sur la Belgique où on en parle beaucoup. Alors évidemment, proportionnellement en volume, c'est un plus petit pays, donc on en parle moins en volume, mais on en parle beaucoup localement. Et il faut savoir aussi que vous parliez de guerre d'usure. Sur la guerre d'usure, la semaine dernière, les messages étaient très négatifs sur finalement la police. C'était pas tant qu'ils soutenaient les indépendantistes,
mais des scènes qui ont choqué certains. Oui.
Là, cette semaine, c'est très négatif contre les indépendantistes.
On conclut sur ce sujet, Catherine Ney.
Oui,
c'est les prochaines heures qui vont être décisives.
Les prochaines heures vont être décisives, mais en tous les cas, c'est la première fois qu'il y aurait une révolution, dans le fond, une démocratie libérale. Parce que Rajoy le dit, il n'était pas contre l'autonomie catalane, ni la gouvernance catalane, c'est contre l'indépendance. D'ailleurs, il faut bien dire aussi que Puigdemont ne parle plus d'indépendance. Donc on ne sait plus très bien où on va finalement. Mais ce qui est intéressant. Mais je ne sais pas, en tous les cas, ce qui est intéressant.
C'est du bluff.
C'est de voir que la maire de Barcelone, qui était au contraire, commence à à craquer un peu, de dire il faut voir, et que au Parlement espagnol, les amis de Iglesias, Podemos, commencent, qui étaient d'abord très anti-indépendantistes, bon, comme ils sont pour le chaos et tout cassé, ils se disent, après tout, il y a une opportunité, et ils commencent un petit peu à changer de discours. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir
donc
ce que
puisque
sont les amis...
Enfin, oui. Un basculement,
il y a un effet beaucoup plus important, à mon sens, et beaucoup plus dissuasif, c'est l'exode économique.
Ah ben oui, 1200.
On est surtout, il y a 534 entreprises totémiques sur le plan de la Catalogne qui sont parties et qui, pour beaucoup, s'installent où ? Chez l'ennemi, c'est-à-dire à Madrid. Il y a notamment Planeta qui est le 7e éditeur mondial hispano-américain.
Bien sûr,
qui
et ça,
quitte,
ça fait beaucoup réfléchir
Barcelone.
Les dirigeants
évidemment.
Catalans.
Et puis, ajoutons que depuis la crise, il y a une 25% de touristes en moins en Catalogne. Donc, ça fait beaucoup économiquement. À la fois, si 1200 entreprises ont déjà déplacé leur siège
et
social.
C'est évidemment une donnée dont vont tenir les dirigeants. Allez, retour en France, les grands avec à présent et après la réforme de l'ISF, les parlementaires qui ont voté la dernière mesure fiscale phare du projet de budget 2018. Il s'agit de la fin progressive de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Sur ce sujet, sur toute la séquence, analyse à suivre.
Le débat des grandes voix d'Europe 1. Sonia Mabrouk.
Tous les dimanches, que vous soyez sur les routes ou tranquillement à la maison, on vous accompagne sur Europe 1 pour le débat d'actualité des grandes voix. Je suis entourée de Catherine Ney, Charles Villeneuve, Frédéric David Lifop, l'historien Jean Garrigue et Véronique Relsoult pour les réseaux sociaux. Alors cette semaine, les mesures fiscales phares du budget ont été adoptées en première lecture, je le précise. Après la réforme de l'ISF, il y a eu la fin progressive de la taxe d'habitation. Mais d'ailleurs, d'abord sur la forme, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat sur les riches, les premiers de cordée, Frédéric David ? Ça va laisser des traces tout ça ?
Clairement oui, dans le sens où ce débat a été complètement cannibalisé dans le discours des Français par ce débat sur l'ISF, comme ça l'avait été en 86 quand Jacques Chirac avait abrogé l'impôt sur les grandes fortunes.
À la manœuvre, c'était Édouard Balladur.
Tout à fait, mais c'était le Premier ministre, quand même Jacques Chirac. Il y avait encore une hiérarchie entre eux, si je puis dire. Et puis, les amis, qui à l'époque étaient de 25 ans, je pense. Et puis, en 2007, il y a eu comme le début de quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui était très populaire jusqu'à la fin de l'année, avait été, je dirais, gêné par l'image du président des riches et par le bouclier fiscal qui avait permis à la gauche, sonnée par sa défaite présidentielle, de se refaire. Là, on est sur les mêmes leviers, c'est-à-dire une petite musique qui s'installe de plus en plus sur la politique menée. Certes, elle était dans l'offre programmatique d'Emmanuel Macron, ce qui est une véritable protection pour lui, mais elle n'est pas juste. Les APL, ce n'est pas juste. La CSG qui touche les retraités, ce n'est pas juste, même s'ils gardent toujours un socle important.
Les emplois aidés.
Voilà, les emplois aidés. Et puis, l'ISF qui vient comme élément surplombant. Alors, ce qui est quand même intéressant pour Emmanuel Macron, dans l'enquête IFOP-JDD publiée ce jour, où il y a des propos qualitatifs, des verbatims de Français qui expriquent pourquoi ils ne sont pas satisfaits, il n'y a pas la même intensité que le ras-le-bol fiscal sous François Hollande, et l'image du président des riches ne lui est pas, je dirais, accolée stricto sensu, à la différence de Nicolas Sarkozy, qui lui était perçu comme quelqu'un de riche. Mais, clairement, c'est l'idée d'une politique verticale, pas juste qui va favoriser les personnes les plus aisées.
Non, sentiment d'injustice, mais pas forcément l'étiquette de président des riches, en tous les cas pour le moment.
Oui, mais et là je m'adresse à l'historien, à Jean Garrigue.
Présent.
Est-ce que en étant rationnel,
on peut rester quand même, ou...
et logique, oui, vous pouvez.
Ah bon, merci.
Non, vous apprendrez par sa réponse
mais
quelque chose.
J'apprends toujours avec vous tous.
Alors, est-ce que en étant rationnel et logique, on emporte l'adhésion d'un peuple, de surcroît du peuple français, pour qui l'égalité compte plus que tout, plus sans doute l'égalité d'abord. L'égalité plus que tout. Et d'ailleurs, cette égalité, il ne faut pas oublier que la France, l'État français, a construit l'unité nationale autour de l'égalité et pas autour de la liberté. C'est la grande différence avec le monde anglo-saxon. Et c'est vrai depuis 89, 1830, 1848 et même 1946. Et c'est en cela que lorsqu'on s'attaque justement à un privilège qui semble profiter aux riches, parce que sincèrement, c'est pas en appauvrissant les riches qu'on va enrichir les pauvres. Et c'est surtout pas avec cette ISF.
C'est si facile, oui. Voilà. La réponse de l'historien, Jean Garrigue.
Je sais pas si j'ai une réponse si attendue que ça, mais on voit bien là l'exception française. C'est vrai que cette question de la taxation des riches et cette notion de riche, c'est quelque chose qui est typiquement français, puisque ça n'existe pas dans les autres pays européens, enfin dans la plupart des autres pays européens. Et souvenez-vous en tout cas de l'histoire, c'est-à-dire de ce thème des 200 familles qui avait tellement été important au milieu des années 30, en 1934, quand Édouard Daladier... Alors, le mur d'argent, c'était un petit peu avant, mais ouais, toutes ces notions-là, elles sont inscrites profondément dans la culture française. D'où d'ailleurs le fameux manifeste des députés, sénateurs et autres intellectuels sur les 100 plus riches français.
On en parlait, ça.
Eh bien, on voit très bien à quel point tout débat, au fond, sur l'efficacité fiscale, et notamment en ce qui concerne les riches et ou les plus grandes fortunes, est polluée ou en tout cas oblitérée par ce qui fait cette exception culturelle française, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à ne pas voir la société en termes d'opposition de classe et de se considérer que d'un côté, il y a les petits, de l'autre côté, il y a les riches, les gros, ce qu'on appelle les
gros
aussi.
Donc il y a encore cette opposition des classes dans notre esprit, dans notre imaginaire collectif.
Elle est massive. Elle est massive, avec quand même un petit point qui est un vrai danger d'opinion pour Emmanuel Macron. Il y a des Français qui nous disent « nous sommes des classes moyennes et nous sommes lésés, puisque nous sommes trop riches pour bénéficier d'exemptions et pas assez riches pour pouvoir faire de la défiscalisation. » Et ce sont ces classes moyennes qui ont été un vrai réservoir électoral pour Emmanuel Macron qui pourrait lâcher.
Et ce sont elles qui avaient subi le ras-le-bol fiscal aussi.
Ah, donc. Non, mais et dont le principal patrimoine est l'immobilier. Oui. Justement.
Catherine, d'ailleurs, un cinquième des assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes ont des revenus par an d'autour de 50 000 euros. Est-ce que ce sont des riches? Non, c'est parce qu'ils ont eu un appartement, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie pour acquérir un petit appartement. Ils ont peut-être fait un petit héritage et eux, ils trouvent que vraiment, c'est insupportable. Mais moi, je crois que Macron, il a quand même raté cette réforme parce que pendant la campagne présidentielle, la droite voulait le supprimer parce qu'elle voit bien que tous les inconvénients à taxer les riches et puis l'impôt immobilier qui était ridicule. Et puis la gauche voulait le maintenir. Lui a dit, on va faire en même temps. Alors en même temps, et on supprime, c'est-à-dire tout ce qui est valeur mobilière. Alors les gens qui ont de l'argent en espérant qu'ils vont investir dans l'économie, mais tout ce qui est immobilier, ça on va continuer à le taxer. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que si vous avez beaucoup d'argent et que vous investissez votre argent dans des obligations d'État, c'est sans risque et là vous gardez votre fortune. Mais si vous voulez faire de l'immobilier qui est avec des risques, et Dieu sait si on a besoin que les capitaux aillent dans l'immobilier, et bien là vous serez taxé, ce qui est absolument ridicule. Moi je pense que quand Bruno Le Maire a dit c'est la fin d'un tabou, pas du tout. Moi je pense que c'est une réforme ratée parce qu'il n'a pas été courageux. Que quelquefois en même temps, non, ça ne marche pas.
Les grandes voix. Cette question sur les réseaux sociaux, hein, parce que je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir avec le hashtag grande voix, c'est Lémi qui vous demande, Macron n'a-t-il pas tout simplement supprimé l'ISF pour satisfaire les lobbies qui ont financé sa campagne et accessoirement ne plus le payer lui-même?
Ça, c'est encore une lecture très idéologique et un petit peu caricaturale. Mais en revanche, dire que effectivement, c'est une réforme qui a été mal menée, qui a été manquée, je crois que là, on est plus dans le vrai.
Non, c'est mal à manger pour
mais
vous,
il faut
donc,
savoir, moi, ce qu'on entend, c'est que justement, Emmanuel Macron lui-même ne valide pas la manière dont tout ça a été mené.
C'est quand même lui qui a proposé de couper en deux l'impôt sur la fortune. Enfin, et moi, je me souviens, pendant la campagne, on disait à des proches qui étaient autour de lui, mais pourquoi est-ce qu'il ne supprime pas l'impôt sur l'immobilier? Et
je
disais, ah ben non, il ne faut pas en bien
aujourd'hui. Ni d'accord avec Catherine, ni d'accord avec Jean-Garry.
C'est Nini.
Pour une raison simple, c'est que les dégâts, les conséquences ne sont pas si énormes, puisque si on devait revoter aux élections présidentielles, n'est-ce pas, mon cher? Il repasserait encore plus confortablement.
Est-ce qu'on peut préciser de quoi vous parlez?
Non, moi je veux bien que nous soyons des juges extraordinaires et très machin, mais c'est pas mon avis.
Non, j'ai exprimé mon avis. Bon, mais moi ce que tu dis là ne change absolument pas mon point de vue.
Oui,
parce que de toute façon aujourd'hui on voit pas qui pourrait prendre la relève. D'abord aujourd'hui, alors c'est
Charles Villeneuve fait référence en fait à un sondage paru aujourd'hui dans le journal du dimanche avec l'IFOP de notre ami Frédéric Dabi qui est ici présent. Mais dites-nous Frédéric, moi ce genre de sondage m'a toujours interpellé. Là on est en train de rejouer l'élection et de demander aux Français pour qui ils auraient voté au premier tour. Et on voit qu'ils voteraient toujours pour Emmanuel Macron avec je crois 4% de plus.
Oui, 4 points de plus.
Quelle conclusion vous en tirez?
La conclusion, c'est bien sûr il faut bien regarder avec attention l'objet de ce sondage. Ce n'est bien sûr pas l'idée de refaire le match, mais comme on l'avait fait en 2012 et 2007, c'est une autre manière de voir la situation du champ politique, l'état des forces. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, à la différence de François Hollande en 2012, progresse de manière significative, tout simplement parce qu'il sait, je dirais, déporter du centre au centre droit. Puisque s'il y a un chiffre qu'il faut retenir de ce sondage IFOP-JDD, c'est que plus de 36% des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012 choisiraient Emmanuel Macron, parce que c'est ce que l'on voit dans nos enquêtes qualitatives, les sympathisants de droite sont globalement satisfaits de voir mis en place un programme dont ils ont toujours rêvé que les dirigeants de droite mènent lorsqu'ils étaient
donc
au pouvoir.
Donc vous êtes en train de dire que c'est un programme de droite ?
Mais
c'est
quand
comme ça que c'est perçu.
Mais Frédéric, quand tu parles avec plusieurs députés des Républicains, eux te disent que leurs électeurs, notamment dans les circonscriptions, leur disent pas d'opposition bête et méchante.
Et que s'est-il passé aux législatives, mon cher Charles ? On a vu une partie de la droite basculer vers Emmanuel Macron.
Alors évidemment, ce débat a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Véronique Reil-Soult.
Alors évidemment, Frédéric Dabi a raison, évidemment aussi. En réalité, les mots qui sont associés à Emmanuel Macron sont peu le sujet des rives. C'est-à-dire que quand vous disiez que ça lui colle pas tant que ça à la peau, non, ça lui colle pas tant que ça à la peau. Mais Catherine a raison, le seul point sur lequel il cristallise vraiment, c'est le sujet de l'immobilier. Mais vraiment, c'est le sujet qui les rend absolument hystériques. Et il y a un autre point aussi.
Et d'ailleurs, ce sera à mon avis, ça va se fondre dans une prochaine réforme.
Et il y a un autre point aussi, c'est que, et là c'est pas un sujet de parti, c'est un sujet de statut, les retraités qui s'expriment sur les réseaux sociaux, et il y en a, surtout sur Facebook d'ailleurs, ils sont très mécontents, eux, ils ont l'impression que le mot injuste là, revient tout le temps, ils ont l'impression d'être les dindons de la farce, systématiquement, et donc là c'est pas tant un sujet de droite que de gauche, sauf qu'on connaît à peu près le mode de fonctionnement et pour qui votent habituellement les retraités, mais eux ils sont très mécontents, ils ont du temps et ils ont le temps de s'exprimer, et cette petite musique là elle monte aussi.
Catherine. Mais moi je crois que l'affaire n'est pas terminé, parce qu'au Parlement, les Républicains qui voulaient supprimer l'impôt sur la fortune ont dit que ce partage en deux entre les valeurs mobilières et l'immobilier, ça faisait une rupture d'égalité. Et c'est pour ça que certains députés, avec d'ailleurs des raisons différentes, dont les Insoumis, voudraient s'adresser au Conseil constitutionnel pour trancher. Alors, de deux choses l'une, soit le Conseil, pour aboutir à quoi ? Alors, est-ce qu'on retourne ce qu'espèrent les Insoumis à l'ISF d'avant, c'est-à-dire que tout le monde paye, ou au contraire, comme voudraient les gens du Républicain, qu'on efface tout et qu'on efface toute la
position. En tous les cas, c'est un mouvement du balancier d'un côté ou de l'autre.
Voilà, et c'est au Conseil constitutionnel de trancher.
Alors, à la faveur de ce budget...
Les Républicains ont voté la suppression de l'ISF.
Les grandes voix. Ils ont voté parce que c'était le verre à moitié
Charles Villeneuve, ce soir, on les
Moi, je regarde les chiffres.
Attendez, vous avez oublié de parler d'un opposant. Mais oui, c'est ni la droite, ni la France insoumise, ni le PS. Enfin, c'est un petit peu le PS quand même de qui je parle. À la faveur de ce budget, on l'a retrouvé.
François Hollande.
Mais oui, alors le François Hollande, selon nos confrères du JDD, donc l'actuel Zigoto. Chef de... Bah voilà, vous parlez à ma place. L'actuel chef de l'État, de nouveau, un nouveau qualificatif pour décrire son prédécesseur, Zigoto.
Mais un président ne devrait pas dire ça comme,
Elle est bonne. Rien que pour ça.
Pour François Hollande.
Elle est bonne. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de François Hollande ?
L'ex-président, est-ce que l'ex-président devrait dire
non,
justement
moins,
ce qu'il a dit ? Vous connaissez un peu la boxe, mon cher Jean-Garry. Eh ben, il est dans la position du boxeur, finalement, qui monte sur le ring, qui jette l'éponge, qui se retire et qui dit mon adversaire est nul. Mais c'est en gros, c'est ça.
Catherine, qu'est-ce qu'il cherche François Hollande ? À revenir encore ? Mais sous quelle forme ?
Mais parce qu'il supporte pas de... il supporte mal de ne plus être au pouvoir et il ne supporte pas d'avoir été supplanté par un garçon qui lui doit tout et dont il disait « Macron, c'est moi ». Eh bien, Macron, c'est pas lui. Mais moi, je trouve qu'il a tort d'intervenir parce qu'après tout, quand on voit les sondages, c'est le président le plus impopulaire et il le demeure. Et quand même, n'oublions pas, il a refusé de se représenter, mais il a eu raison parce que 80% des Français ne souhaitaient pas qu'il se représente. Voilà. Donc je ne sais pas si ça lui donne, si ça l'autorise à parler aussi vite. Moi, je pense qu'il y a un délai de viduité à respecter qu'il ne respecte pas.
Frédéric Dabi.
Catherine a complètement raison. C'est vrai que pour l'instant, dans les enquêtes d'opinion, il n'y a pas la moindre nostalgie, bienveillance ou relecture de son bilan a posteriori un peu plus favorable. Il a tort de sortir d'une stratégie de silence. Quand on se souvient que Nicolas Sarkozy, pourtant, ça le démangeait. Mais il n'a accepté sa petite carte postale en août 2012 sur la Syrie, avait été vraiment silencieux pendant plus d'un an. Giscard d'Estaing était seulement revenu à la télévision se défendre sur les avions renifleurs. À part ça, les anciens présidents battus à la présidentielle étaient restés très très silencieux.
Merci les grandes voix. Votre émission se poursuit bien sûr. Voici le programme à venir. Au Front National, est-ce la fin d'un cycle? Les questions se multiplient autour d'un FN version Marine Le Pen. Alors son retour à la télévision a été considéré comme un flop. Mais au-delà, comment analyser un tel malaise? Et puis nous parlerons de la dernière semaine dans le procès Mera. Quelles leçons retenir de ces semaines de procès? Restez avec nous sur Europe 1.
Le débat des grandes voix d'Europe 1. Sonia Mabrouk.
Merci de votre fidélité au débat d'actualité. On vous accompagne le dimanche soir en direct pour votre émission. Je suis entourée de Catherine Ney, Charles Villeneuve. Nous accompagne aussi Frédéric David Lifop, l'historien Jean Garrigue, Véronique Reilsoul pour les réseaux sociaux. Et cette question à présent, au Front National, est-ce la fin d'un cycle? Les questions en tous les cas se multiplient autour d'un FN version Marine Le Pen. Son retour à la télévision s'est soldé bien par un flop. Mais au-delà, les grandes voix, comment vous analysez un tel malaise en ce moment? Charles Villeneuve.
Ben, je trouve que depuis l'échec de son débat présidentiel avec Emmanuel Macron, qu'elle appelle elle-même d'ailleurs ce rendez-vous manqué avec les Français, elle ne parvient pas à retrouver un deuxième souffle.
Les ressorts sont usés, cassés ?
Non, mais pour deux raisons. Je trouve que le Front National a perdu sa dimension anti-système et le départ de Philippot est en quelque sorte, je trouve, un appauvrissement. Ce sera intéressant de savoir ce que les sondages Frédéric Dabi dit là-dessus.
Je nuancerai un tout petit peu. Tout ce que vient de dire Charles est tout à fait exact, avec en plus Marion Maréchal qui se positionne comme une sorte de recours possible.
On la positionne ainsi, oui, hein, c'est pas l'expression.
Oui, on la positionne.
Pour l'instant, elle dit rien.
On la positionne, ouais. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, le fait que ce débat lui ait fait perdre beaucoup en stature présidentielle, je serais bien prudent sur un déclin irrémédiable du Front National comme de Marine Le Pen. Si je fais référence au sondage dont nous parlions tout à l'heure sur « on refait la présidentielle 6 mois après », elle bénéficie d'une stabilité d'intention de vote de premier tour rassurante. Elle obtiendrait 21,5, ce qui est à 2/10 le score qu'elle a obtenu le 23 avril 2017. Et tout cela nous interroge sur pourquoi vote-t-on Front National ? Quelles sont les sources du vote FN ?
C'est d'ailleurs, mon cher Frédéric, pour moi, la vraie question. Je pense que le Front a structuré profondément ses assises dans beaucoup de régions françaises, plus que Marine Le Pen.
On a un élément de réponse sur une enquête pour l'IFOP et le JDD qu'Europe 1 avait diffusé en exclusivité une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle. Nous avions interrogé plus de 2000 Français qui au moins une fois avaient voté pour le Front National. Et les raisons avancées, c'était ni Jean-Marie Le Pen, ni Marine Le Pen, mais c'était la dimension protestataire du Front National.
Anti-système.
Ses constats sur la société et ses solutions sur l'immigration.
Malgré tout ça, et vous avez raison de nuancer.
Il y a une sorte de chronica, de substrat, qui fait qu'il faut être prudent. 21,5, c'est beaucoup plus que Jean-Luc Mélenchon, dont on fait le premier opposant, alors qu'il est peut-être que le premier faire valoir.
Attendez, les grands, ça c'est très intéressant, cette distorsion entre ce que disent les commentateurs politiques, qui voient pour Marine Le Pen la fin d'un cycle, qui voient l'émergence de Jean-Luc Mélenchon, et ce que vous dites. Ça c'est important, Jean Garrigue.
Non, mais ça n'obère pas l'idée d'une fin de cycle, parce que de manière effective, il y a une fin de cycle. Il y a une stratégie qui a été tentée par Florian Philippot, à laquelle a adhéré Marine Le Pen. Cette stratégie a été un échec. Au-delà de l'échec personnel de Marine Le Pen au duel du deuxième tour, il y a le constat qu'on n'a pas été, je veux dire que le souverainisme n'a pas suffisamment porté le Front National vers la conquête du pouvoir. Encore faut-il savoir si cette conquête de pouvoir, elle est dans l'ADN du Front National et s'il veut vraiment conquérir le pouvoir, car leur ADN, c'est d'être protestataire. Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle ligne. Et là, on peut parler d'un autre cycle, c'est la ligne de Philippe Olivier, le beau-frère, qui aujourd'hui a pris finalement une importance auprès de Marine Le Pen qui est similaire à celle qu'avait prise Florian Philippot, et qui est une ligne, alors c'est un ancien maigrettiste, c'est-à-dire quelqu'un qui, lui, est sur une ligne identitaire. On revient aux fondamentaux, identité, sécurité, immigration et aussi libéralisme. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez partir à la conquête ou à la reconquête d'un électorat qui, au fond, aujourd'hui est hésitant.
Mais est-ce que les langues se sont déliées au sein du Front National et encore plus au sein des militants, des sympathisants, notamment sur les réseaux sociaux, Véronique Reilsoult?
Oui, parce qu'effectivement, on peut aller regarder ce que disent spécifiquement les militants du Front National. Pour eux, Marion Maréchal Le Pen est une espèce de voix que l'on attend. Très sincèrement, Marine Le Pen, on en parle peu. Alors, ils en ont un petit peu plus parlé, les militants, cette semaine, parce qu'il y a l'émission et c'était pas forcément pour dire du bien. En revanche, ils sont actifs, un petit peu plus actifs sur le sujet Front National. Ils font une vraie différence entre les deux. Nicolas Bayle est beaucoup cité par les militants parce que il a fait un appel du pied, ou en tout cas, il dit qu'il ne serait pas contre le retour de Marion Maréchal. Et on voit bien que c'est plutôt elle qui incarne l'avenir pour les militants du Front National. Sachant que l'autre sujet, quand on parle Front National, pourquoi est-ce qu'on voterait pour eux? Le mot qui ressort sur les forums spécifiques Front National, c'est le mot immigration. C'est vraiment ce mot-là qui est explique pourquoi est-ce que
sans surprise, hein.
Sans surprise, mais c'est uniquement ça. Il parle pas de l'Europe, il parle pas des autres sujets, il parle
que de la vraie question. Est-ce que selon vous, Marine Le Pen a perdu, j'allais dire, son leadership, Catherine? Vous savez, sa force d'attraction, la curiosité qu'elle suscitait, et même l'électricité quand elle passait dans une émission de télévision, qu'il se passait quelque chose.
Parce que tout le quinquennat de François Hollande, vraiment, dès que quelqu'un disait quelque chose qui pouvait aller dans le sens du Front National, attention, vous allez faire monter le Front National. Et on s'était peu à peu habitué à l'idée que peut-être elle allait enfin passer le plafond de verre, parce qu'il y avait des résultats au régional qui étaient assez exceptionnels, au municipal même. Et on disait, voilà, que va-t-elle faire? Et bien finalement, ça a été la grande déception. Elle a fait 21% au premier tour. Et alors qu'elle était face à Macron, on pensait quand même qu'elle pourrait monter jusqu'à 40%. Or, quand on a vu qu'elle ne faisait que 33%, ses proches ont dit, là, elle ne passera jamais. C'est fini. Elle a raté son débat, elle a raté. Et dans le fond, elle a raté son émission il y a deux jours parce que face à...
Qu'elle l'a vraiment raté sur le fond?
Oui, elle l'a raté sur le fond parce que face à Darmanin, au ministre du budget, elle était toujours aussi floue. Elle disait alors sur l'euro, ben nous allons voir quoi. Elle pensait ne pas... On a vu qu'elle ne maîtrisait pas encore ces questions économiques, qu'elle n'avait pas travaillé depuis. Et puis surtout, la nature a horreur du vide. Pendant un temps, envoyait Marine Le Pen sur les estrades assez souvent, c'était elle et Philippot. Maintenant, on ne voit plus Philippot. Enfin, il mène sa vie. Et elle, on ne l'a pas vue depuis l'élection présidentielle. Elle n'a pas réussi à faire...
Parce qu'elle est passée par un moment difficile, qu'elle était fatiguée.
Non, voilà. Au Parlement, elle n'existe pas. Il est très difficile de prendre la parole quand on n'a pas un groupe parlementaire et qu'on n'a que 8 députés. C'est très difficile. Elle a laissé la place à Mélenchon comme opposante numéro 1.
Mais surtout, il y a deux menaces qui font pression sur Marine Le Pen. La première menace, c'est qu'il y a une dauphine possible. Et ça, c'est indéniable et incontournable. Et la deuxième menace, pour moi, c'est Laurent Wauquiez. Voilà. Par son positionnement, il peut siphonner les voix du Front. Il y a une porosité idéologique entre les Républicains. Elle est évidente sur la sécurité, sur les migrants, sur le retour à une droite identitaire. Wauquiez, sur le plan économique, n'a pas la faiblesse de Marine Le Pen. Il est beaucoup plus fort sur ce plan-là. Et tout à l'heure, Catherine disait qu'elle est floue sur le plan économique. On l'a vu d'ailleurs face à Darmanin. Elle est floue sur l'Europe aussi. Quand on lui dit, mais quelle Europe vous préconisez? Elle dit, on verra. Elle reste floue.
Je suis d'accord. Le véritable risque à terme, c'est que ce nouveau cycle, parce que c'est un nouveau cycle qui est un retour à, au Front National de Jean-Marie Le Pen, se heurte précisément à un espace politique que Laurent Wauquiez est en train d'essayer de reconquérir. Laurent Wauquiez, avec sa droite dure ou décomplexée, c'est une droite qui va sur les thèmes d'identité, de sécurité, qui en plus a la crédibilité d'un héritage libéral, c'est-à-dire que lui, l'économie, les Républicains, ils savent ce que c'est, cette économie libérale, ils la défendent depuis toujours. Donc finalement, l'espace de reconquête, puisque une fois qu'on a abandonné la ligne souverainiste de Philippot, on va vers cet espace-là. Dans cet espace-là, on va se heurter forcément à Laurent Wauquiez. Donc là, il y a vraiment un problème politique très grave.
Les personnalités, et puis il y a, j'allais dire, le tempo politique, Frédéric Dabi. Dans un temps politique qui s'est accéléré, on peut se demander si Marine Le Pen a envie d'aller à la présidentielle une quatrième fois. Ça fait déjà trois fois qu'elle tente.
Et c'est vrai que, au-delà de ça,
gravir le mont
l'Everest, l'Everest présidentiel. C'est vrai qu'il y a aussi une donnée qui échappe au cas de Marine Le Pen, c'est que depuis François Mitterrand et Jacques Chirac, qui ont réussi à gagner l'élection présidentielle après deux échecs pour chacun, malheur aux vaincus. à une élection présidentielle. Ségolène Royal n'a jamais pu réémerger. Nicolas Sarkozy, il n'a même pas pu être candidat puisqu'il a été battu aux primaires. On a cette présidentielle qui est très compliquée lorsqu'on l'a perdue.
Et il y en a qui partent d'eux-mêmes. À qui je pense, les grandes voix ? Christine Boutin.
Oui,
alors,
qui a été candidate en 2002.
Sur les réseaux sociaux, Véronique Reltsout.
Ils sont tristes parce
qu'est-ce que cela a donné ?
Ils aiment bien l'attaquer, donc ils ont un peu
tristes. Il y a beaucoup d'ironie dans ce que vous dites là.
Oui.
Un mot, non, ça ne vous inspire pas plus ?
Christine Boutin ? Ah non.
Bon, allez, merci les grandes voix.
Si, si, parce que.
Jean Garrigue ?
Bon. C'est,
non, mais elle était très emblématique.
Non, mais elle était très emblématique d'une tradition de la droite française que René Raymond appelait légitimiste, une droite catholique, traditionnaliste, avec une dimension aussi de christianisme social qu'elle défendait. Le problème, c'est qu'elle s'est quand même beaucoup plus fait entendre sur la question de dire que l'homosexualité était une abomination, sur l'opposition au Pacs, etc.
Annoncer la mort de Jacques Chirac.
Et annoncer la mort de Jacques Chirac.
Elle a un petit peu
dégradé quand même son héritage.
Merci les grandes voix. Autre actualité, dans le procès Mera à présent, bien beaucoup de tensions et d'émotions cette semaine. Retour sur les temps forts des auditions et puis cette question, quelle leçon retenir de ces semaines de procès ? On en parle, restez avec nous.
Le débat des grandes voix d'Europe 1. Sonia Mabrouk.
Dans l'actualité, nous parlons du procès du frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah, le procès qui entre dans sa troisième semaine. Alors, il y a eu des moments très forts de tension, d'émotion lors des auditions. On va parler dans quelques instants des éventuelles leçons à retenir dans un tel procès. Mais tout d'abord, sur ces moments-là, Charles Villeneuve, le face-à-face entre la famille Merah, notamment la mère, et les familles de victimes, ce sont des moments lourds, difficiles. Il y a eu des éclats de voix, et bien plus que cela d'ailleurs.
Ben c'est un instant décisif sur le plan pas seulement de l'émotion, mais sur le plan évidemment de ce que ça va révéler de toute cette famille, c'est-à-dire remplie de haine et de violence. Quand la mère, Zulika, apprendra, et on va l'apprendre surtout à l'audience, face au président des assises et au juré, quand la mère de Mohamed Merah apprendra que son fils a tué 3 soldats français musulmans, qu'il en a blessé un quatrième, qu'il a ensuite assassiné tout en les filmant, 3 enfants de 8, 5 et 3 ans et le père de 2 d'entre eux, elle dira « Mon fils a mis la France à genoux ». Elle répétera ça. Et de la même manière, lorsque son frère cadet, qui est dans le box des accusés, son fils cadet, qui est dans le box des accusés, Abdelkader, donc, lui dira, mais tu as de la peine pour ton frère qui a été tué par le RAID, par la police française. Il répondra, non, il m'a fait un tel cadeau en assassinant toutes ces personnes, et notamment les juifs, que non, je n'ai pas, au contraire, c'est une récompense. Donc, si vous voulez, c'est assez ahurissant. Maintenant, juste pour être évidemment précis, c'est qu'une partie de la fratrie, notamment la fille Aïcha, et aussi l'autre frère, Abdel Ghani, eux sont sortis de cette famille et ont réussi une parfaite intégration quand même dans la société française, en tout cas à Aïcha.
On est encore dans l'émotion dans ce procès-là, mais Jean Garrigue, l'historien, on n'est pas encore évidemment dans le temps assez lointain pour retirer vraiment et tirer les leçons historiques, mais selon vous, que peut apporter un tel procès qui était vraiment très attendu évidemment par les familles de victimes ?
Énormément, parce que à mes yeux, ce procès est vraiment une quintessence du problème de ce qu'on appelle la radicalisation des quartiers. En 2002, a été publié un ouvrage sur les territoires perdus de la République, dirigé par un historien qui s'appelle Georges Bensoussan, qui avait dû prendre un pseudo pour écrire ce livre, tant, j'allais dire, le monde médiatico-intellectuel lui était tombé dessus parce qu'il dénonçait l'antisémitisme, le racisme qui montait dans ces banlieues. Et finalement, cette famille Merah, elle est la quintessence de tout ça. C'est une famille d'origine algérienne, c'est-à-dire qui transporte avec elle tout le ressenti, toute la repentance aussi de la part de l'État français par rapport à la colonisation algérienne. Une famille décomposée, avec un père qui vendait du cannabis. Une famille totalement radicalisée, déboussolée, qui nous renvoie à la fois vers une lecture sociale de ce que peut être la radicalisation, mais aussi une lecture culturelle et religieuse que la gauche notamment a voulu totalement laisser de côté depuis plusieurs décennies. Donc ce procès Merah, me semble-t-il, il pose, mais de manière presque caricaturale, tous les enjeux que posent précisément aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire ce phénomène de radicalisation islamiste qui peut déboucher sur le crime et avec cette dimension antisémite qui est très très forte. Donc je crois que vraiment il y a énormément de choses à tirer de ce procès et il y a beaucoup de non-dits, de pudeurs et autres qui devraient aujourd'hui se libérer. On assiste un petit peu à cette libération de la parole, mais je crois que là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour voir les choses en face et voir ce qui est en train de se passer dans les banlieues.
On va continuer à évoquer les enjeux. Ce qui est toujours frappant aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, Véronique Ressaut, c'est qu'on suit, on est en train de suivre ce procès. C'est un véritable live tweet qui est fait par les journalistes responsables des questions de justice ou de police, parfois même par d'autres personnes qui assistent au procès. On a l'impression d'y être, de tout entendre.
Oui, parce que normalement c'est à huis clos, mais avec Internet, on a les messages au fur et à mesure. Rappelez-vous, ça avait déjà commencé à l'époque de DSK, où on avait au fur et à mesure, pendant le procès, des fuites. Ben là, c'est pareil. Au fur et à mesure, on a une dizaine de comptes, il suffit de les identifier, on les suit, on sait exactement ce qui se passe, minute par minute. C'est un peu dérangeant, parce que ben d'abord, c'est le principe normalement du huis clos, on ne devrait pas avoir ces informations, et ensuite, les uns et les autres commentent. Évidemment, il y a des récupérations, en particulier par F de Souche, qui s'empare des messages sans qu'on puisse prendre le recul nécessaire. On n'a pas toutes les informations et on surfe et ça participe à cette petite rumeur un peu compliquée autour du procès.
Frédéric Dabi.
Oui, pour le petit bout de la lorgnette, je ne me prononcerai pas sur ce procès, mais c'est vrai que ça change les pratiques médiatiques. On se souvient des grands procès passés où c'était des grands chroniqueurs judiciaires, de Frédéric Potcher à Paul Lefebvre, qui, dans le cadre du journal télévisé, venait raconter le procès et expliquer avec beaucoup de pédagogie les tenants et les aboutissants.
C'est ce qui manque,
complètement, là. Puisque là, on est sur un média, mais sur un média sans filtre.
Mais c'est même pas un média, c'est juste un canal de communication.
Un canal de communication.
C'est important, Charles Villeneuve, ce qui est en train d'être dit. Je vous pose en plus la question à vous en particulier, parce que vous avez animé des émissions, je pense, sur M6, au Glaive et à la Balance, qui expliquaient véritablement les fondements des aspects juridiques et tout cela. Est-ce que cela manque aujourd'hui, quand on a de tels procès où il y a une nécessité de la pédagogie, de l'explication?
C'est vrai, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est le premier grand procès du nouveau mode opératoire terroriste. C'est ce qui a pris à revers, d'ailleurs, tous les services de renseignement et la police judiciaire française. C'est la raison pour laquelle son itinéraire pendant 3 jours a fait 7 victimes sans qu'on se rende compte que tout le mode opératoire avait changé. Et la deuxième chose qu'on peut tirer de cet enseignement de procès, et je trouve que c'est assez important, c'est qu'en réalité, il faut pas d'organisation extrêmement précise pour générer un terroriste, mais que c'est un terrorisme quasiment qui naît dans une famille, certes, comme l'a très bien expliqué Jean Garrigue, de quartiers qui sont complètement déconnectés par rapport au système de vie, par rapport aux lois, évidemment, de ce pays, mais il n'empêche que c'est dans la mutation actuelle du terrorisme d'un phénomène par imitation.
Catherine Ney.
Oui, dans ce procès, ce qui est, je pense que la tâche pour le défenseur de Kader El Merah, c'est-à-dire Maître Dupont Moretti, est très difficile parce qu'il défend, que c'est normal. Mais pour les familles, écoutez, après avoir entendu pendant plusieurs heures la mère qui dit que vraiment ses enfants c'était des bons garçons, alors que vraiment elle a sûrement joué un rôle dans leur radicalisation par cet antisémitisme violent qu'elle proférait devant eux en permanence. Et là, que Dupont Moretti puisse dire devant l'émotion de la salle qui grognait un peu, il a dit, mais écoutez, c'est la mère d'un accusé et d'un mort. Et
cette phrase a été terrible.
Cette phrase est terrible et
elle
pense que ça
restera.
C'est un coup de tonnerre
procès.
Et je pense que moi-même, ça a choqué. Et il devait le dire, sans doute, mais ça, la défense a manqué d'une sensibilité. Je pense que pour les familles, ça a été très dur.
Il y a les leçons aussi à retenir pour la suite, pour le renseignement. Charles Villeneuve, je me tourne encore vers vous parce qu'il y a eu un autre moment, une autre audition qui a eu lieu cette semaine importante. C'est celle de l'ancien patron du renseignement de l'époque, Bernard Squarcini, auquel, vous savez, on avait beaucoup reproché l'utilisation de l'expression du terme « loup solitaire ». Alors, il a eu l'occasion de s'expliquer.
Oui, c'est-à-dire qu'il a, si vous voulez, fait nettement la séparation entre le fait qu'il a agi seul au moment de ces 7 assassinats, de ces 7 meurtres, et qu'en réalité, il était mu par un réseau, certes familial, mais pas seulement, puisqu'il était allé dans les territoires, si vous voulez, notamment en Afghanistan, où il a reçu une mini-formation de 15 jours. Donc, il s'appuyait, si vous voulez, sur une structure. Et évidemment, il n'était pas un loup solitaire. Il n'y a pas de loup solitaire. Aucun acte aujourd'hui de terrorisme, quelles que soient les années où ça s'est produit, à partir de 2012, ne correspond à un acte solitaire.
Bernard Squarcini qui a concédé, peut-être dit-il, quelques retards, mais aucun raté. Pour conclure sur ce sujet, Jean Garrigue, donc le procès n'est pas filmé. Dans quelques années, peut-être qu'on le verra, on le reverra différemment. Il y aura toujours ce regard de l'histoire, il est important sur ce genre de procès. C'est quand même l'un des premiers grands procès du terrorisme en France.
Bien sûr, avec cette thématique de l'antisémitisme.
C'est le premier grand procès du terrorisme.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je l'ai rappelé tout à l'heure. Et vous savez, on parlait de l'intervention de Maître Dupond-Moretti. On connaît les engagements de Maître Dupond-Moretti, il ne les a pas cachés. Et c'est quand même assez troublant de voir de quelle manière il se positionne dans ce procès, comme un défenseur. Il a tout à fait, évidemment, et tout à fait fondé à le faire, mais aussi comme quelqu'un qui représente un certain courant de pensée, une certaine manière d'appréhender ces questions-là. Et il faudrait quand même que ce procès puisse justement essayer de faire évoluer un tout petit peu le regard qu'on porte, qu'on prenne conscience de ce qui est en train de monter dans ces banlieues.
Bien sûr, l'occasion d'en reparler, puisqu'on avance vers les plaidoiries. Elles viendront en fin de semaine prochaine. Les Grandes Voix, il nous reste quelques minutes après la pause. Nous allons parler d'autre chose. Allez, pour se détendre, qui a dit qu'il aimait le foot déjà autour de cette table? Catherine Ney, voilà, nous parlera du Classico OM-PSG. Restez avec nous, je vous assure que c'est à écouter. Hein. À tout de suite.
Le débat des Grandes Voix d'Europe 1. Sonia Mabrouk.
Merci de votre fidélité. Nous sommes toujours en direct, toujours accompagnés de Catherine Ney, Charles Villeneuve, Véronique Reilsoult, Frédéric Dabi, Jean Garrigue, presque une équipe de foot, mais il en manque quand même. On ne pouvait pas ne pas en parler, évidemment, Catherine Ney. Votre analyse est attendue, un match.
N'ayez pas peur. Écoutez, je laisse la parole à Charles Villeneuve, parce que je ne voudrais pas l'écraser de ma supériorité en la matière.
Un classico au MPSG, un classico, c'est encore aussi, il y a toujours autant de tensions autour de ce genre de rencontre.
J'entends beaucoup dire c'est plus comme avant. C'est vrai que c'est plus comme avant parce que évidemment le titre de champion de France n'est pas en jeu ce soir. Très nettement, Marseille est très loin derrière, enfin relativement loin, ils sont quand même dans les 5 premiers. Et puis, mais ça peut redevenir comme avant. Parce que, justement, il faut prendre non pas le modèle du Paris Saint-Germain, ni le modèle des grands clubs anglais, ni le modèle espagnol, le Barça ou le Real, qui ont tous des budgets de plus de 500 millions d'euros. Il faut prendre l'exemple sur le Bayern de Munich, qui a travaillé son centre de formation, la détection, les jeunes, qui a créé un véritable esprit de club. Et cet esprit peut se retrouver, justement, à Marseille, qui est quand même une grande place du football français. Il est essentiel que le championnat de France ait un grand club à Marseille, parce que c'est quand même le club historiquement le plus populaire de France.
Ça détient aussi, égalité, très populaire.
Ils sont à égalité à 13% dans le cœur des Français, enfin des supporters de foot. Le PSG a rejoint l'OM, qui est emblématiquement...
Parce mais ça dépasse les supporters de foot, l'OM, mais et le Paris Saint-Germain
mais
aujourd'hui.
Mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui où on voit une nouvelle génération qui va plutôt vers le PSG, à cause des résultats, évidemment, du Paris Saint-Germain. Mais l'OM garde, évidemment, cette tradition. Ce qui est regrettable, quand même, là, ce qui se passe, c'est que les supporters du Paris Saint-Germain n'ont pas pu accéder, enfin, n'ont pas pu être reçus, parce qu'on avait peur, une fois de plus, de troubles. Et ça,
il y en a eu. Alors, ça reste modéré, mais l'ambiance est montée d'un cran dans les rues de Marseille, avec quelques caillassages, malheureusement, et 7 supporters marseillais qui ont été interpellés. Frédéric Dabi, ça reste toujours un moment, une confrontation attendue.
Oui, ça fait partie des grands rendez-vous de l'année du championnat de France de football, comme aussi le derby Saint-Étienne-Lyon ou dans le passé Lille-Lens. C'est vrai que bon, il y a le problème de la sécurité. Le seul moment où il y a eu des incidents lors de l'Euro 2016 en France, ça a été justement à Marseille entre supporters russes et supporters anglais.
Oui, non,
tout à fait.
Russes.
Et puis bon, j'assume. Ma génération verte, il y a quand même le club de Saint-Étienne qui continue, malgré une absence de résultats assez récurrente, à faire battre le cœur des Français.
Catherine, qu'est-ce que vous en pensez?
Que du bien.
Mais parlons de l'ambiance, c'est important, Charles Villeneuve, comme l'ambiance dans ce studio. Le Vélodrome, c'est combien? C'est plus de 67 000 spectateurs, ces virages incandescents.
Et c'est un très beau stade. Le nouveau stade de l'Olympique de Marseille est vraiment architecturalement formidablement réussi.
Moi, je peux vous dire que le
sur les réseaux sociaux, bah, Véronique Grelsou,
c'est toujours le sujet numéro un discuté sur les réseaux sociaux. Vous voyez toujours en trending topic arriver des noms abscons quand on ne suit pas le football, avec des acronymes qui reprennent le nom des différentes équipes. Mais ce qui est sûr, c'est que là, juste à l'instant, on parle essentiellement de foot ce soir. Et globalement, les internautes aiment bien refaire le match. Je crois que c'est le cas de tous les gens qui aiment le foot. Et il y a des tas de discussions pour savoir si c'est le sport en général. Donc, est-ce que c'était une bonne idée de choisir un tel ou un tel? Mais je peux vous dire que ça occupe énormément. Là, on doit avoir quelque chose comme 217 000 messages juste sur ce.
Voilà pourquoi c'est important d'en parler. Et ce sera à suivre, évidemment, avec François Claus et notamment toute l'équipe à partir de 20h. Ce sera sur Europe 1 pour Libre Arbitre. Merci. Les grandes voix, Charles Villeneuve, Catherine Ney, Véronique Relsout, Frédéric Dabi et Jean Garrigue. Et à présent, pour vous accompagner jusqu'à 20h, autre temps dans cette émission, je vous propose de partir à la découverte de nouveaux profils. Ce sont les pépites d'Europe 1. Ce sont des invités qui, par leur parcours, leurs actions, leurs écrits, innovent et font progresser le débat public sur différents sujets. A tout de suite pour les découvrir ensemble.
Condition. Pépites d'Europe 1, Sonia Mabrouk.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1 jusqu'à 20h. Je vous propose à présent de découvrir tous les dimanches deux invités qui font l'actualité à leur manière, par leur parcours, leurs actions, leurs idées ou leurs inventions. Ils vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux actuels de notre société et les défis de demain. Europe 1 les met en avant et je suis ravie d'accueillir ce soir notre premier invité. Participe avec d'autres à un parti de la jeunesse. À 21 ans, Sophie Caillot est la présidente du mouvement Allons Enfants, dont les candidats et les responsables ont entre 18 et 25 ans. Leur objectif, rajeunir notamment le Parlement, insuffler d'autres pratiques en politique, replacer la jeunesse au cœur du processus de décision. Bref, des objectifs qui rappellent ceux d'Emmanuel Macron. Alors que penser de cette démarche et d'un parti exclusivement composé de jeunes? On posera toutes ces questions à Sophie Caillot. Bonsoir. Et bienvenue à vous, avec nous également ce soir dans un tout autre domaine. Blanche de l'Étrange, à 30 ans, elle est déjà la numéro 2 de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain. Elle s'occupe en particulier de la programmation et du développement culturel et elle est à la tête de la prestigieuse section Hors les Murs qui expose une centaine d'œuvres dans les lieux publics de la capitale. Des œuvres qui font beaucoup parler, des choix avant-gardistes, osés, trop osés pour certains. On va en parler et parler aussi de votre parcours. Blanche de l'Étrange, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à vous.
Bonsoir.
Merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. L'occasion de découvrir vos parcours, vos découvertes, vos idées, vos initiatives.
Les pépites d'Europe 1.
Et justement, on va démarrer avec cette initiative, ce parti, ce mouvement Allons Enfants. D'abord, comment est-ce qu'on peut le définir, Sophie Caillot? Vous en êtes la présidente.
Oui, je suis la présidente depuis un mois. Et donc oui, nous sommes un parti politique, un vrai, qui a pour but de changer la façon de faire de la politique en impliquant les jeunes, mais pas seulement, en impliquant l'ensemble des citoyens et en faisant une politique différente qui serait plus tournée vers les préoccupations des jeunes français qui se sentent trop souvent délaissés par les hommes politiques, comme on peut le voir dans le taux d'abstention record pendant les présidentielles ou les législatives de juin dernier. Donc notre but, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble des jeunes, de montrer qu'en tant que jeune, on peut se faire entendre et qu'on a le droit au chapitre
bien sûr,
en politique.
Ce que vous faites ce soir. Également, je l'ai dit, comme objectif, rajeunir les institutions, insuffler d'autres pratiques en politique. Quand j'ai dit que ça rejoignait les axes de campagne d'Emmanuel Macron, c'est le cas.
C'est le cas,
qui a
oui.
copié l'autre?
Alors, on a été créé en 2014 pour les municipales.
Donc avant, ce que vous
voilà.
Voulez dire.
Donc, au moment des présidentielles, la question s'est posée de est-ce qu'on va présenter un candidat à nos enfants? On a fait le choix de pas le faire parce qu'on voulait pas personnaliser le pouvoir et personnaliser la politique. Au contraire, on voulait rester l'entité à nos enfants qui prend des décisions collégiales et de manière participative. Donc, quand on a vu arriver les présidentielles, forcément, quand on voyait tous les gros partis qui commençaient à envoyer leurs candidats, on n'était pas très heureux et nous, on se reconnaissait dans aucun d'entre eux. Et c'est vrai que quand Emmanuel Macron a lancé En Marche, on s'est dit, bon, bah, au moins quelqu'un qui parle de renouvellement. Après, on l'a pas.
Et dans la pratique, justement, Sophie Caillot, on parle beaucoup de renouvellement des têtes. Est-ce que les pratiques, selon vous, ont changé 5 mois, 6 mois après
son élection? Je pense que Emmanuel Macron avait des intentions très nobles, mais ce qu'il a fait, c'est plus du recyclage que du réel renouvellement. On voit que, oui, des jeunes sont entrés au Parlement. ça reste quand même pas la majorité, au contraire. Quand on voit le Sénat, aujourd'hui, il y a à peine 2% des sénateurs qui ont moins de 40 ans. Donc on est encore très loin de la, d'un vrai renouvellement et d'un vrai non-cumul dans le temps.
Est-ce que selon vous, le renouvellement, ça passe forcément par l'âge ? Est-ce qu'il faut être jeune pour paraître nouveau dans ce monde politique ?
Il ne faut pas être jeune, mais il faut qu'il y ait des jeunes. Parce qu'en l'occurrence, les jeunes ne sont pas représentés, enfin, sont très très mal représentés, alors qu'on a vraiment des choses à dire, des idées plus modernes. Et dans notre monde qui évolue à vitesse grand V, il faut aussi que les jeunes soient consultés sur la façon de faire de la politique de manière plus moderne, plus innovante, en prenant en compte les enjeux du numérique.
J'ai peur de vous demander jusqu'à quel âge on est jeune.
Alors, on est...
dans votre parti, en tous les cas, c'est entre 18 et 25 ans.
Même les moins de 30 ans qui commencent maintenant vraiment à s'intéresser.
Je suis plus proche de mes parents du groupe.
Vous êtes à la limite. Hein.
Nous avons avancé sur la barre, de personnes de moins de 30 ans qui nous ont sollicité, donc on pense leur ouvrir nos portes. Mais on ne reste pas non plus hermétique à toute expérience de personnes plus âgées. Au contraire, on a créé un mouvement qui s'appelle les aînés avec Allons-enfants.
À partir de 30 ans.
Parce qu'on veut vraiment aussi promouvoir une façon de faire de la politique plus intergénérationnelle. Le dialogue des générations, c'est vraiment ce qu'on prône. On ne veut pas faire, au contraire, rester en vase clos. Voilà, on ne veut pas seulement faire parler les jeunes, on veut faire parler l'ensemble des générations ensemble.
Blanche de l'Étrange, qu'est-ce que vous pensez de cette... C'est un parti, hein, c'est plus
oui,
une initiative.
C'est un parti.
C'est un véritable parti. Vous êtes numéro 2 de la FIAC. On parlera tout à l'heure de votre domaine, de politique culturelle. Mais est-ce que ce genre d'initiative, de parti, manque pour parler davantage à la jeunesse, pour les concerner davantage?
Moi, je pense que c'est très, très important, effectivement, que la jeunesse puisse se mobiliser encore plus. Ça veut dire qu'on est sur des jeunesses engagées. Aujourd'hui, l'art est quelque chose de très très engagé aussi, de la création artistique, l'innovation, les messages artistiques donc portés par la jeunesse. Je pense que c'est très bien, mais je pense qu'on peut continuer à s'engager aussi à 30 ans, à 35 ans, etc.
Donc... Et pas forcément peut-être à travers un parti politique, Sophie Caillot, parce que Blanche de l'Étrange, on le précisera tout à l'heure, vous êtes également engagée dans le milieu associatif. Vous-même, oui. Sophie Caillot, vous avez commencé par le domaine associatif. Est-ce qu'il faut forcément transformer l'essai par un parti politique aujourd'hui pour changer les choses et les faire avancer?
Non, alors j'ai en effet eu un engagement politique depuis que je suis au lycée, parce que pour moi ça a toujours été important de me faire entendre et de montrer que j'étais une citoyenne, donc j'avais le droit et même l'envie de participer à la vie de la cité. Donc j'étais engagée dans différentes associations pendant mes premières années d'études également. Et il y arrivait un moment où j'ai voulu aussi faire entendre ma voix sur des sujets politiques, d'actualité. Et j'ai réalisé qu'au sein d'un gros parti traditionnel ou même d'un mouvement de jeunes, un mouvement de jeunesse de parti, on était plutôt instrumentalisés en fait. En tant que jeunes, on nous demande notre avis, c'est consultatif, c'est bien, on fait parler les jeunes, mais sans vraiment nous prendre au sérieux. Et donc c'est là que j'ai rejoint Allons Enfants pour pouvoir avoir un poids, en tout cas essayer d'avoir un impact dans le débat public.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'occasion aussi de voir les choses de l'intérieur, puisque vous êtes actuellement à Bercy.
Oui, je fais un stage en ce moment au ministère de l'économie pour essayer de voir concrètement comment s'élabore une politique publique et pour justifier et crédibiliser ce qu'on va proposer avec Allons Enfants pour voir que nos mesures peuvent se mettre en pratique.
Et quelles leçons vous en tirez? Vous y êtes depuis longtemps là au ministère de l'économie?
Non, j'ai commencé il y a un mois.
Déjà, vous avez quelques pistes, quelques je sais pas, griefs ou des choses qui ne vont pas?
Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer dans l'administration et dans la façon de faire les politiques. Et je trouve que impliquer davantage les citoyens, et là, je parle vraiment pas que les jeunes, au contraire, l'ensemble des citoyens doivent être consultés sur toutes les mesures qui sont prises. Et c'est même si Emmanuel Macron prenait du renouvellement, il n'a pas tellement amélioré la participation des citoyens à la démocratie. Et ça, je pense que c'est là-dessus qu'on va se battre avec Allons Enfants.
En tous les cas, avec lui, c'est un président plutôt jeune qui est quand même arrivé à la tête de l'État, également dans d'autres pays européens, notamment en Autriche. Quel est votre regard? Est-ce que selon vous, les jeunes dirigeants font forcément de bons dirigeants?
Comme on le voit justement en Autriche, où les résultats des législatives nous ont pas réjouis, parce que on est très partagé au sein d'Allons Enfants, parce que enfin on est tiraillé entre deux sentiments. On peut que se réjouir qu'un jeune de 31 ans accède au pouvoir.
Mais il partage pas vos opinions.
Mais il est loin de partager nos opinions sur l'Europe notamment. Mmh. Il est enfin nous sommes profondément europhiles. On veut plus d'Europe et lui non. Donc même pendant les scrutins législatifs, on voit que souvent les jeunes sont attirés par les partis extrêmes, et ça on le déplore, et c'est pour ça qu'on veut mettre en place différentes actions de sensibilisation des jeunes pour leur expliquer que être jeune, c'est important, c'est s'engager, c'est important, pas forcément pour des causes.
Vous, Sophie Caillot, vous avez été candidate lors des dernières élections. Est-ce que vous tenterez de nouveau votre chance? Est-ce que vous vous dites que vous avez comme objectif d'être élue aujourd'hui?
Non, au contraire. Pour nous, être élue, c'est pas un métier, c'est un engagement d'un temps. Là, l'engagement de ma jeunesse, ce sera Allons Enfants pour essayer de faire porter la voix des jeunes. Et c'est vrai qu'on va vers le prochain scrutin qui est en 2019, sont les élections européennes. Donc ça paraît un peu loin, mais on commence déjà, à se préparer. Parce que, comme je l'ai dit, on croit dans l'échelon européen. Donc on veut essayer de s'impliquer à ce niveau-là. Mais donc je me présenterai peut-être aux élections européennes. La question n'est pas encore posée. On va présenter des candidats avec Allons Enfants. Mais ce qui est certain, c'est que je ne ferai pas de la politique un métier. Au contraire, c'est le contraire de nos valeurs.
Blanche de l'Étrange, dans quelques instants, on va découvrir vraiment votre parcours, tout ce que vous faites également au sein de la FIAC. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, pour faire avancer notamment le domaine de la culture, il faut passer par la politique? Est-ce que c'est important de ce levier politique?
Je pense pas que ce soit primordial de passer par la politique. Je pense que la politique est un engagement, comme l'est la démarche artistique. Donc tout engagement est vecteur de changement, en fait. Je pense que la jeunesse est vecteur de changement, mais l'art aussi. Et en fait, il y a une œuvre d'art qu'on a installée l'année dernière sur l'avenue Winston Churchill d'un artiste français qui s'appelle Jacques Villeglé. Une phrase de Henri Michaud qui dit l'art est ce qui aide à tirer l'inertie. Et je pense que tout engagement, toute mobilisation telle qu'elle soit, politique, associative, culturelle, etc., permet de faire avancer les choses.
Que vous soyez là, que vous en parliez chacune dans vos domaines respectifs. On va continuer à en parler évidemment. Vous êtes les pépites du dimanche soir avec un autre regard sur l'actualité via vos parcours, vos actions, vos découvertes. Sophie Caillot, présidente du parti Allons Enfants, donc toute nouvelle présidente, et Blanche de l'Étrange, numéro 2 de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain. A tout de suite.
Les pépites d'Europe 1. Sonia Mabrouk.
Merci d'être en notre compagnie tous les dimanches. J'ai le plaisir de vous retrouver de 18h à 20h pour deux temps, vous le savez, dans cette émission. Tout d'abord, l'actualité avec le débat des grandes voix. Et puis, place à présent aux pépites d'Europe 1. On part à la découverte d'invités qui nous font réfléchir sur les défis à venir. Autour de moi ce soir, Sophie Caillot, présidente du parti Allons Enfants, et Blanche de l'Étrange, numéro 2 de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain. Blanche, la FIAC s'est étalée sur toute la semaine jusqu'à aujourd'hui, ce dimanche. On va parler de cet événement, du bilan. Mais d'abord, pour vous, j'imagine que c'était une semaine, enfin une période un peu compliquée. Beaucoup de travail, de stress,
intense.
D'émotions.
Très, très, très intense.
On vous remercie d'être là ce soir.
Merci de m'accueillir. Non, mais la FIAC vient de fermer ses portes il y a à peu près 40 minutes. Sur un bilan, on n'a pas encore tous les chiffres, hein, évidemment, parce que ça vient de se fermer, mais extrêmement positif. Extrêmement positif. Donc une semaine intense en émotions, en plein de choses, plein de projets extrêmement intéressants.
Il faut de temps pour préparer un tel événement.
Alors il faut, moi je travaille toute l'année en fait pour imaginer les projets, pour travailler avec les artistes, pour travailler avec les institutions, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que toute la programmation hors les murs, le festival de performance, les œuvres dans l'espace public, c'est plus de 100 voire 120 projets à mobiliser. Donc c'est énormément d'interlocuteurs, c'est travailler dans des institutions comme le Louvre, le Petit Palais, la Place Vendôme, etc. Donc c'est des espaces aussi qui ont des contraintes très particulières, sont des monuments historiques, sont des espaces très prestigieux. Et donc évidemment, c'est mobiliser les différents acteurs, que ce soit les galeries, que ce soit les partenaires institutionnels, privés ou les artistes, pour mettre en place cette programmation.
Et pour le plus grand bonheur des spectateurs, des visiteurs, qui sont dans la plupart des cas subjugués par les œuvres. Et il y a toujours, on va parler de cela aussi, et bien ceux qui ils disent, voilà, c'est polémique, ils ne comprennent pas certaines œuvres, certains choix qui sont considérés trop décalés, trop posés, trop avant-gardistes. Qu'est-ce que vous répondez de manière générale à ces critiques, il faut le dire, sont permanente pour la FIAC?
Écoutez, nous, on ne cherche pas la polémique. Hein. C'est-à-dire que nous, on a développé via la FIAC, et c'est assez unique en son genre, toute cette programmation hors les murs qui va vers le grand public, qui est une prise de parole des artistes dans l'espace public, qui a la possibilité de montrer des projets exceptionnels d'artistes extrêmement reconnus ou de très jeunes, hein, des découvertes aussi, de lancer une carrière d'un jeune artiste dans ces lieux emblématiques parisiens, de faire vivre Paris, de faire rayonner Paris, États-Unis et la France à travers
la
scène artistique.
Et la concurrence est grande, hein, avec les autres capitales.
Et la concurrence est grande, parce qu'il y a effectivement des places artistiques extrêmement dynamiques, et Paris a retrouvé toute sa splendeur, on peut le dire. Enfin, en tout cas, grâce à la FIAC, on a aujourd'hui un rayonnement culturel très important. Donc la FIAC a cette volonté d'être un vecteur culturel, donc d'aller à la rencontre de tous les publics. Alors c'est vrai que on est dans des espaces, des lieux, des jardins des Tuileries qui touchent tous les publics, un public qui n'est pas forcément initié à l'art contemporain.
Ça, c'est important ce que vous dites. Donc vous revendiquez aussi, c'est important, vous essayez en tous les cas de mettre en avant ce lien social également.
Alors nous, social, on essaye de faire en sorte que le plus grand nombre soit touché par la création artistique, en se disant que l'art peut changer une vie. On n'est pas obligé de connaître et d'être un initié depuis des années et des années pour être touché par une œuvre d'art. Alors c'est vrai que de temps en temps ça déstabilise et le message n'est pas toujours clair.
Parce qu'il y a des œuvres quand même, Blanche Delsange, qui sont des œuvres coup de poing, qui sont extravagantes.
Il y a un engagement des artistes. Voilà, nous, ce qu'on valorise, évidemment, c'est le travail des artistes. Alors, pour accompagner le grand public, on met en place tout un dispositif de médiation culturelle. On a 140 étudiants de l'école du Louvre qui toute la semaine présentent les œuvres dans l'espace public.
Qui sont chargés de faire vraiment la pédagogie presque
absolument.
De votre choix. Pourquoi on a choisi ça l'œuvre ?
Qui sont chargés de présenter le travail des artistes, l'engagement des artistes, de présenter le projet, etc. Et puis on met en place tout un système de communication, de guide, etc. qui accompagne chaque démarche de chaque artiste. Donc il y a une vraie volonté de sensibiliser en fait le grand public à la création artistique. Et ça, on le fait aussi pour le spectacle vivant, puisqu'on a un festival de performance de danse contemporaine, etc. Donc c'est d'autres aspects de la création artistique qui peuvent toucher aussi le grand public. La danse, ça peut
Bien
toucher
sûr.
Le grand public.
Et vous, Blanche Delétrange, c'est l'exposition. C'est un très grand événement. Hors les murs, il est vraiment particulier. Vous l'avez décrit tout à l'heure. Ce sont ces œuvres qui vont épouser un petit peu certains lieux emblématiques de la capitale. Mm-hmm. C'est toujours difficile parce qu'il y a le choix des œuvres et puis il faut que ça se marie aussi avec le lieu dans la capitale.
Oui.
Donc vous avez une double, j'allais dire, une double contrainte, une double performance.
Alors il y a le choix des œuvres évidemment en collaboration avec les institutions qui nous accueillent, avec des conservateurs de musées, on est accompagné par des grands acteurs du monde de l'art, hein, sur la sélection des projets proposés par les galeries. Puis évidemment, donc ça, c'est l'aspect cohérence artistique. Et puis, il y a l'aspect aussi purement technique, puisqu'on est dans des espaces.
Mais racontez-nous, quand vous choisissez, je le précise quand même à nos auditeurs, vous avez 30 ans, vous êtes numéro 2 de la FIAC, qui est l'un des plus grands événements. Ce n'est pas rien, vous nous direz quelques mots de votre parcours. Comment arriver si jeune à la tête d'un tel événement? Quand vous choisissez une œuvre à exposer, qu'est-ce que vous privilégiez?
Alors, il y a beaucoup de critères et ça va dépendre effectivement de... Pour ce qui est œuvre, on va dire, dans l'espace public, donc des sculptures, installations, etc., il y a la cohérence artistique, ça veut dire la démarche de l'artiste, son niveau de notoriété, sa compétence artistique, donc ça, évidemment, ça, c'est plutôt de l'expertise de l'art contemporain, mais il y a aussi l'ensemble architectural dans lequel on se trouve, ça veut dire quand on est au jardin des Tuileries, il faut travailler en lien avec le conservateur des Tuileries, avec le jardinier en chef, etc., pour comprendre les liens et les connexions aussi avec ces espaces-là et l'histoire du lieu, etc. Donc, créer des dialogues avec les collections permanentes, les collections patrimoniales des lieux, et puis en même temps des contraintes techniques de bâtiments historiques.
Vous en parlez avec des étoiles dans les yeux. Vous êtes tombée petite dans dans la marmite de la culture, des musées.
Dans la marmite, oui, d'une certaine manière, j'ai toujours baigné plus ou moins dans le milieu de la culture, de l'art contemporain, des artistes, etc. Donc c'est quelque chose qui m'est familier, de la danse aussi beaucoup, et donc. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose
c'est
qui m'a fumé depuis très très longtemps.
Qui vous a mis
c'est mon
le
environnement
pied
familial, absolument. Et puis après, j'ai fait des études qui sont tournées sur vraiment la mise en place de projets artistiques, notamment à Sciences Po, où j'ai mis en place une exposition avec les Beaux-Arts, avec un atelier d'un très grand artiste qui s'appelle Jean-Marc Bustamante. Et donc là, j'ai vraiment eu le concret, la concrétisation de réaliser des projets d'exposition, en fait, de travailler avec les artistes. Et c'est ça qui m'a vraiment... Enfin voilà, c'est ce qui m'a...
Qui vous donne cette passion aujourd'hui. aujourd'hui.
Exactement, hein, de travailler avec les artistes.
Quand vous interviewez. Sophie Caillot, vous êtes la présidente du Parti pour les jeunes, ou en tout cas avec les jeunes Allons Enfants. Quand vous entendez un tel parcours, une telle motivation, une telle conviction et passion de Blanche de l'Estrange, qu'est-ce que vous dites? D'abord, que la culture fait partie, j'espère, des axes de votre parti.
Bien sûr, bien sûr. Oui. Dans notre programme qu'on avait rédigé pour les législatives, on avait toute une partie sur l'accès et la démocratisation de la culture.
Parce que c'est souvent le parent pauvre, hein, voilà, de la politique, malheureusement.
Oui, et c'est pour ça que je trouve que notre engagement se rejoint pas mal avec Blanche, parce qu'on, toutes les deux, dans un sens, on voudrait que ce soit la culture ou la politique soit plus accessible. Mmh. Et pour en avoir discuté un peu avec Blanche avant d'entrer en studio, je pense que vraiment rendre l'accès à la culture facile pour tous les Français, mais également tous les Européens, c'est une des principales priorités de ce siècle.
Et surtout pour l'art contemporain, oui. Blanche de l'Estrange, parce que décloisonner cet art-là, c'est un véritable défi aujourd'hui.
Il y a une idée qui est, que l'art est très élitiste, mais en fait, la création artistique, les artistes, les artistes parlent à tout le monde. Être un artiste, c'est être aussi un danseur, c'est être aussi un écrivain, c'est créer, en fait. Et la création parle à tout le monde. Donc, je pense qu'il y a effectivement peut-être une certaine méfiance, mais que nous on essaye vraiment d'ouvrir les barrières, de décloisonner l'idée qu'on a de l'art contemporain, de montrer que toutes les disciplines sont aujourd'hui, l'art contemporain c'est aussi, comme je le dis, c'est aussi la poésie, c'est aussi l'écriture, c'est aussi les films d'artistes, on montre beaucoup de films d'artistes, donc tout ça c'est montrer qu'en fait aujourd'hui la création est quelque chose qui va toucher le plus grand.
Et vous voyez arriver toute une nouvelle génération d'artistes, certains ont votre âge, peut-être même plus jeune, moins de 30 ans. Est-ce qu'ils viennent vraiment de différents milieux, ou est-ce que aussi ils viennent d'un même milieu, parfois un entre-soi, ou est-ce que vous voyez vraiment
absolument tous les milieux?
Quand on veut parler à des gens différents, il faut venir soi-même de milieux divers.
Oui, et puis vous savez, nous on est la FIAC, on a 193 galeries qui viennent de énormément de pays du monde, donc c'est une plateforme internationale européenne, puisque ça c'est un vrai sujet aussi. On a la foire la plus européenne, puisqu'on a une représentation européenne très importante. Donc évidemment c'est des horizons géographiques très très différents. On essaye de valoriser toutes les pratiques en fait, toutes les générations et tous les horizons. Donc, voilà.
Blanche de Trancy, ce soir un artiste en herbe nous écoute et qu'il a très envie de vous envoyer un projet, une œuvre. Comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut vraiment accéder directement et vous envoyer cela?
Alors, directement, à partir du moment où en fait
un processus de sélection.
On est une foire en fait professionnelle, donc c'est vrai qu'on a aussi des critères. On montre les artistes qui sont exposés par les galeries de la FIAC. Ça, c'est vraiment sur la partie, des installations, des sculptures. Sur toute la partie spectacle vivant, etc. On travaille aussi avec des artistes qui sont pas forcément représentés par des galeries, mais des artistes. C'est vrai que moi je rencontre à travers des festivals, à travers des institutions, à travers des biennales, etc. Donc aussi à l'étranger.
Accessible pour des jeunes artistes aujourd'hui qui n'ont pas forcément tous les contacts et tous les réseaux possibles, on peut aujourd'hui quand même vous rencontrer et puis accéder à la FIAC un jour.
C'est-à-dire que la FIAC en fait montre, elle est ouverte à tous, donc après il y a évidemment, on reste une foire professionnelle aussi, hein, donc ça veut dire qu'il y a déjà un premier pas, il faut avoir déjà un premier pas et un premier lien avec un milieu du marché de l'art professionnel.
Le mot de la fin, peut-être toutes les deux, quel mot vous retenez? Qu'est-ce que Sophie Caillot, pour les prochaines années, là à venir, quelle est l'ambition d'Allons Enfants?
Je pense que notre gros défi va être de s'ouvrir aussi bien géographiquement à toute la France et sociologiquement pour que toute la jeunesse soit représentée au sein du parti.
Blanche de l'Estrange, numéro 2 de la FIAC, et bientôt.
Et moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de continuer. C'est de continuer à ouvrir les publics, c'est de continuer là, peut-être à toucher aussi par rapport à l'éducation artistique, plutôt les associations, les enfants, etc.
C'est ce que vous faites.
Et voilà, j'ai des projets liés aussi au social, etc. Donc pouvoir élargir encore plus, toucher des horizons encore plus différents.
C'est ce que vous faites. Merci en tous les cas d'avoir été nos invités. Merci Sophie Caillot et Blanche de l'Estrange d'avoir été nos invités. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles pépites. suite. Mais d'abord, Libre Arbitre avec François Claus. Bonsoir François, c'est une très belle soirée en perspective. Hein.
Ah oui, bonsoir Sonia. Un soir d'OM-PSG n'est jamais un soir comme les autres pour tous ceux qui ont le foot chevillé au corps, ce qui est notre cas. Libre Arbitre, un grand voyage dans le monde entier du Vélodrome, où nous irons jusqu'au Panama en passant par Manchester. Mais bien sûr, avec la vibration singulière de cet OM-PSG dont vous ne raterez rien sur
non,
Europe 1.
Vous me connaissez bien. Merci et tous nos auditeurs, François.